Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Howard, I've always thought of you as a small, weak and gutless man. But you know, there's no reason to be rude.
You owe me, Mike. You gave me your word. And that used to mean something. My son, Raphael, he's in trouble. I want to get him out of Mexico.
You want me to go down there and kidnap him?
Please, just get him back up here.
Just you?
Just me.
Cry Macho est le nouveau film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood et aussi Dwight Schrute et Eduardo Minette. C'est Justin qui nous fait le pitch.
Donc, Cry Macho nous raconte l'histoire donc, d'un personnage vieillissant, ancien champion de rodéo, ancien dresseur de chevaux, voilà, qui dès le début du film se fait virer de son job parce que bon, il est un peu sur le déclin. Et quelques mois plus tard, son ancien patron vient le voir pour qu'il aille chercher son jeune fils adolescent qui vit avec son ex-femme au Mexique. Et donc il veut renouer des liens avec ce fils, donc il envoie Clint Eastwood pour le rassurer. Donc Clint Eastwood va faire ce périple, va retrouver le gamin et va, voilà, sans rentrer dans le détail, va effectuer le voyage de retour avec lui, mais avec à ses trousses des policiers à la fois, parce que la maman a laissé croire que voilà, c'était un prédateur sexuel ou un enlèvement. Et puis, donc, voilà, c'est un film, voilà, mais sans qu'il y ait de tension particulière par rapport à ça, même s'il y a quelques petites scènes.
Oui, c'est pas un film qui est dans le thriller comme voilà. Rambo Last Blood où il faut aller c'est chercher ça. L'enfant de l'autre côté de la frontière, c'est plus un drame familial.
C'est ça, et on n'est même pas tout à fait dans le road movie classique vu qu'il y a une longue pause ouais, qui voilà. va se faire à un moment donné. Alors là, on est dans la catégorie d'Eastwood qui s'interroge un peu sur le temps qui passe, sur le temps qui passe pour lui, sa vieillesse dans la lignée, on va dire, de Gran Torino, notamment.
La mule.
Et la mule, exactement. Et c'est voilà, un film assez tranquille. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des clichés sur le Mexique au départ, c'est-à-dire quand il s'y rend... Où on parle des clichés, ou en tout cas on contredit les clichés, c'est-à-dire quand il va chercher le gamin, on peut s'attendre à ce qu'on trouve le gamin vraiment dans des lieux insalubres, ou qu'il est maltraité ou quoi, et puis la maman vit dans une espèce d'hacienda.
Ouais. Puis lui il fait des combats de coq avec avec les gars du coin, et son coq s'appelle Macho.
C'est ça. Et donc on s'attend à ce qu'ils y vivent dans un peu mal, et puis ils vivent dans une hacienda. Bon, la maman n'a pas l'air très nette non plus, mais bon, en tout cas... Le coin est plutôt nantis, voilà, ils vivent plutôt bien. Et puis, on se retrouve dans d'autres clichés, voilà, avec ces combats de coqs. Et puis, on contourne ces clichés lorsque ils vont se retrouver dans ce village isolé où là, ils vont rencontrer le vrai Mexique authentique, en quelque sorte, où il va se rapprocher d'une jeune femme, enfin d'une jeune femme, d'une femme, oui. locale, enfin jeune par rapport à lui.
C'est ça. Je sais pas. Exactement quel âge est censé avoir le personnage de Clint Eastwood dans le film? On se dit qu'il a plutôt... D'abord. Parce qu'en réalité, il a 92 ans quand même. Oui. Donc normalement, on ne l'envoie pas faire des missions au Mexique hein, à cet âge vénérable.
Mais en même temps, la vieillesse qui est quand même montrée clairement dans le film.
Ouais. Et il a plutôt, il est plutôt dans les 70-80. Mm. Et la femme, elle doit avoir une petite soixantaine, un peu
oui,
moins. Quoi.
Je crois même moins que ça.
D'ailleurs, moi, bah, justement, j'en profite pour rebondir. Moi, je trouve que toute la partie romantique du film... Mm. Il fait ça dans chaque film, en fait. Chaque film, il a une femme plus jeune que lui. Alors, évidemment, les âges montent au fur et à mesure que son âge monte. Hein. Mais c'est toujours la même et j'y crois toujours pas à chaque fois.
Pour moi, c'est plus... Oui, vas-y. Non, pour moi, c'est plus une relation de fraternelle, quoi. Enfin, pas...
Il
y a de la tendresse, mais il n'y a pas d'amour clair entre les... Enfin, c'est...
Alors... Justin et moi ne sommes pas d'accord avec toi. C'est une romance très clairement.
Il n'y a pas de rapprochement physique.
Ils dansent ensemble.
Bah oui.
C'est pudique, mais il y a une romance.
C'est sentimental, mais c'est pas une romance en mode physique.
Mais il a une prothèse de hanche, Clint Eastwood, j'imagine, à son âge quand même.
C'est juste que c'est pudique, mais c'est une romance très clairement.
Peut-être que c'est pudique aussi par pure nécessité, parce que Clint Eastwood se pèterait le coccyx.
Il a une prothèse de hanche à son âge. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai toujours été très méchant pour Clint Eastwood en disant qu'on ne voyait plus un plan depuis Gran Torino où il s'asseyait sur une chaise. Et bah franchement, j'ai trouvé que, bon, physiquement, il fait quand même ses 90 ans. C'est-à-dire qu'il ressemble quand même un peu au Prince Philippe quand ça allait pas trop. et donc du coup, c'est vrai que dans toutes les scènes... En fait, ça crée un décalage qui n'est pas adressé dans le film, en fait. J'ai pas de problème avec le fait qu'il ait 90 ans et qu'il joue des personnages de 90 ans. Mais s'il joue un personnage qui a 20 ans de moins, parce que j'ai l'impression que le film est écrit comme un personnage qui a 20 ans de moins.
Alors, en fait,
je suis un petit peu perdu. Je trouve qu'il y a une dissonance à ce niveau-là.
En fait, le film, il a eu le scénario du film quasiment dans les années 70. Hein, et il voulait réaliser ce film à cette époque-là. Et il se trouvait trop jeune pour jouer le rôle. Il a essayé d'embaucher Robert Mitchum pour le jouer, donc il n'a pas pu embaucher Robert Mitchum, donc il s'est mis le scénario de côté jusqu'à ce qu'il ait l'âge du rôle. Donc là, il est à peu près l'âge du rôle, alors qu'il était trop jeune la première fois.
Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus vieux que le rôle, parce que je trouve que c'est un homme qui approche de la retraite, quoi, quasiment. Le personnage est écrit comme un homme qui approche de la retraite ou qui est limite à la retraite. Donc, personnage qui a plutôt 70 ans, et du coup, là, on a l'impression que c'est son... Son grand-père qui vient le chercher, quoi. La relation de mentor, tu sais, il y a quand même une relation entre lui et le fils qui devient un peu presque une relation père-fils d'une certaine manière.
Je pense que c'est plus grand-père quand même.
Je trouve que c'est écrit comme père-fils et que à l'image, ça fait grand-père petit-fils. Et du coup, c'est cette dissonance-là que moi j'ai un peu du mal à
adresser. J'ai plutôt senti que c'était quand même grand-père. Et après, il y a aussi, il aime bien jouer de son image, c'est-à-dire qu'il y a l'image de Clint Eastwood, voilà, le badass fort. Ouais. Et il aime bien, il essaie de le maintenir tout en jouant sur son vieillissement.
Une des qualités du film, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'humour malgré tout, même dans la mise en scène. Le moment où il attrape le coq au début avec une espèce de vue caméra subjective est assez rigolo. En revanche, sur la trame globale, c'est vrai que pour moi, c'est... Je sais pas si ça existe, mais est-ce que ça existe le genre film texan ? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment toujours ce genre d'histoire, et d'habitude il y a beaucoup plus de country en fond sonore, c'est vraiment même les films de country.
Après il l'a déjà fait, lui.
Oui, lui il l'a déjà fait.
Honky Tonk Man.
Mais je trouve que par rapport à ces films-là, c'est des films qui sont beaucoup produits, tu vois, des drames qui se passent à la frontière, des drames texans sur fond country, de ranch et d'histoires comme ça. Il y en a 50 000 qui sont produits par an, et ça c'est quand même un film d'auteur, quoi. Ça se hisse au-dessus malgré une base qui pour moi est une base moyennement intéressante, on va dire.
Non, moi, je vais pas en parler ça, des plombes non plus, mais juste vraiment ce que j'ai apprécié dans le film, c'est le calme qui ressort de l'ensemble. J'ai vraiment l'impression que Clint Eastwood, il est arrivé à un moment où il a conscience de son âge. Bon, c'est compliqué de faire autrement, mais tu parlais de Gran Torino et de La Mule. Pour moi, ça conclut cette trilogie. Et en réalité, je pense que j'espère qu'il va vivre encore quelques années, qu'il va encore nous faire quelques films, mais je pense que là, c'est le dernier film en tant qu'acteur.
Pensait déjà avec La Mule.
Oui, mais là, vraiment, il conclut. Pour moi, la fin, c'est la fin d'un homme qui est apaisé et qui décide de se poser. Et en fait, tout le film, c'est ça. Ouais. Tu peux retirer les quelques rebondissements un peu artificiels du film. En réalité, il n'y a pas besoin de rebondissements dans ce film. Il n'y a pas besoin de méchants. Il n'y a pas de méchants, en fait, de vrais méchants. C'est vraiment une balade d'un vieil homme, d'un enfant. Il n'y a même pas vraiment de conflit entre les deux. Et pour moi, la grande sympathie du film, c'est vraiment qu'ils prennent le temps de se poser ensemble, qu'on voit beaucoup Clint Eastwood qui, comme il accepte son âge, il y a quand même beaucoup de scènes où il dort.
Et puis il apprend cet apaisement au gamin, voilà, qui rester très dans cette tension, dans cette opposition, ce machisme, et il lui apprend aussi ce calme, cette manière de se poser, de profiter du moment.
Il y a beaucoup de moments où le personnage de Clint Eastwood dort. En fait, c'est fascinant parce que vraiment, il met son chapeau.
C'est une improvisation, ce n'était pas dans le scénario. Il s'est endormi pendant la prise.
Mais c'est jamais chiant, en fait. C'est des scènes comme ça qui sont posées où tu prends au crépuscule, voilà, et où tu prends le temps de regarder des choses simples.
Le film a quand même un peu deux têtes, c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie-là qui est très belle et qui est très le film d'auteur. Il y a quand même la trame globale qui est
un peu poussive,
qui est un peu laborieuse.
Il en a conscience, je pense, de ça. Parce que tu peux le retirer, honnêtement, le film, pour moi, il fonctionne.
C'est ce que je te disais, pour moi, il a tiré un scénario vers le haut, donc j'ai pas de problème avec ça. Nam, à toi.
Oui, pour bien vérifier sur ce que disait Sébastien, il y a même un dialogue dans le film où il dit, je crois que c'est peut-être dans la bande-annonce, où il dit en fait, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à m'intéresser, à vouloir faire le gros dur et tout, et en fait, tous ces trucs de macho, c'est pas si important. S'il y a un dialogue à retenir du film, je dirais que c'est celui-là, parce que plutôt celui-là qui va relever les thèmes sous-jacents du film. Après, c'est vrai que le film est assez particulier, parce qu'au début, t'as l'impression que ça appartient en road movie, style buddy movie et tout. Et puis, en fait, c'est juste, il prend les scènes de voiture quand il en a besoin. Parce que je me souviens, après le premier arrêt, il y a un petit voyage pour aller à une autre ville. Et ce voyage-là, on le voit pas. Ils partent, ils arrivent, voilà, c'est... À ce moment-là, ils n'avaient rien à raconter, donc ils ne le montrent pas. Et non, il est plutôt... plutôt sympathique hein, pour et puis ouais toute la scène où ils sont
c'est sûr que si on attend un grand Eastwood de la grande époque, je pense qu'on peut être un petit peu déçu.
C'est le film logique à ce stade de sa carrière.
Il a toujours eu des films un peu mineurs comme ça entre deux films.
Est-ce que tu penses à Firefox, l'arme absolue?
Je pensais
quand même pas.
Non, mais je pensais à un autre film où justement au début des années 2000 où tout le monde le disait fini parce que c'était un film assez tranquille, c'était Créance de sang, une espèce de polar assez pépère. Je me souviens même à l'époque, il y avait une interview de Luc Besson. Il avait dit Clint Eastwood, il filme vieux. Sauf que derrière l'enchaînement, il avait fait Mystic River, Mémoire de nos pères, L'échange.
Globalement, il a surtout fait des bons films, mais il y a eu des petits creux par moment.
Non, mais il y a toujours. Des fois, il te fait un petit film un peu insignifiant.
Au-delà avec Matt Damon.
Une petite relâche insignifiante entre des films plus ambitieux.
Ma seule critique du film, c'est parce que ça parle de cow-boy, fatalement, au Texas, tout ça. Et il y a tout un passage où ils apprennent où ils dressent des chevaux. Passage obligé du film texan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le dressage de chevaux, ça consiste à les. C'est le bourrage en français. Ça consiste en gros à les briser mentalement pour qu'ils acceptent qu'un humain pose leur cul sur eux. C'est pas une des pratiques les plus sympathiques qui existent.
C'est un film qui questionne
mais c'est un film texan, n'est-ce pas,
voilà, donc c'est...
Donc ils se posent pas trop de questions non plus, hein, ils sont texans.
C'est ça. Et d'ailleurs, dans les films texans, il y a toujours Dwight Yoakam, hein, qui joue le père de l'enfant. Il faut savoir que s'il est dans le film, c'est un film texan. Et il a un chapeau de cow-boy.
Il jouait aussi dans Panic Room.
Est un film texan. Donc,
le groupe psychopathe.
Par définition.
Très important pour les cow-boys texans, c'est une espèce de petite cordelette autour du cou, en mode nopap.
C'est ça.
Ils l'ont toujours, ça aussi.
C'est ça. Donc un film exotique, en réalité. Même pas un film américain, un film texan, c'est-à-dire encore plus américain qu'américain.
Et mexicain, texan-mexicain.
Texan-mexicain, avec effectivement un Mexique qui n'est pas avec un filtre jaune et où on a l'impression pas sicario, quoi. C'est le Mexique un petit peu plus quand même.
Trafic voilà. Aussi, ils aimaient bien le Mexique jaune.
Il y a des policiers corrompus, mais normal, quoi. C'est pas tous des tueurs en série, tout va bien, quoi. Merci, je crois qu'on a fait le tour pour Cry Matthew. C'est ce qui conclut notre émission et nous allons maintenant passer au quiz.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.